VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 9h en temps universel. L'homme fort de l'est de la Libye, Khalifa Haftar, qui combat le gouvernement libyen, reconnu par l'ONU, GNA, a quitté Moscou sans signer la trêve paraphée par son rival, a indiqué aujourd'hui la diplomatie russe. Le maréchal Haftar avait demandé hier soir un délai de réflexion jusqu'à ce matin avant de signer l'accord formel de cessez-le-feu accepté par son rival, Fayez al-Sarraj. Mais il est finalement parti de Moscou sans apposer sa signature sur le document négocié sous l'égide d'Ankara et Moscou, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Face à une menace djihadiste persistante, les dirigeants des pays du G5 Sahel et de la France ont annoncé lundi la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel avec des priorités redéfinies et une action concentrée sur la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Concrètement, le nouveau cadre prendra la forme et le nom d'une coalition pour le Sahel, rassemblant les pays du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, la France, les partenaires déjà engagés et tous les pays et organisations qui voudront y contribuer. La coalition militaire aura un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel en intégrant nos forces de renseignement, nos forces militaires sur la zone des trois frontières avec une latitude d'engagement beaucoup plus forte, a précisé Emmanuel Macron, le président français. Le prochain rendez-vous a été fixé à Nouakchott, en Mauritanie, où un nouveau sommet associant les États du G5 Sahel et la France se tiendra au mois de juin. Et puis, Kigali annonce que les jours des FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, sont comptés en République démocratique du Congo. En fait, les autorités rwandaises réagissaient ainsi à une lettre des rebelles Hutus rwandais qui dénoncent un accord secret entre Kigali et Kinshasa, Eddy Sango.
Par un tweet, le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, Olivier Ndungiere, donne sa réponse aux FDLR. Il affirme que grâce aux FRDC, l'armée régulière congolaise, les jours des rebelles Hutus rwandais sont comptés. Évidemment, il ne manque plus que les génocidaires FDLR qui terrorisent les Congolais à l'est de la RDC depuis 1994 de profiter de la brèche qui leur a été ouverte par des politiciens et hommes d'église irresponsables, écrit le secrétaire d'État rwandais. Allusion au cardinal congolais Fridolin Ambongo, au président de l'église protestante et au dirigeant de la Mouka qui dénonce un plan de balkanisation de la RDC. Dans leur lettre, les FDLR ont cité les gouvernements rwandais qui, selon eux, visent à perpétuer les plans d'occupation de la RDC. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, a appelé à une marche contre la balkanisation le 17 janvier.
Quatre manifestants du mouvement de contestation en Algérie, condamnés à la prison ferme pour avoir perturbé un meeting électoral, ont été relaxés lundi en appel. Selon une association, ces quatre manifestants avaient écopé en novembre de 18 mois de prison ferme, notamment pour entrave au scrutin présidentiel du 12 décembre, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus, CNLD.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, réunit aujourd'hui ses troupes en vue de la transmission au Sénat de l'acte d'accusation contre le président Donald Trump, signalant ainsi l'imminence du procès en destitution du président américain. Il s'agit pour les démocrates de fixer les modalités et le calendrier de cette procédure historique. Ils devraient également définir quels élus de la Chambre joueront le rôle de procureur lors du procès du président républicain accusé d'avoir abusé de sa fonction pour convaincre l'Ukraine de s'allier un de ses rivaux, puis d'avoir entravé l'enquête du Congrès. Et puis le groupe de coordination des pays dont les ressortissants sont morts dans le crash du Boeing ukrainien en Iran se réunira jeudi à Londres, à l'initiative du Canada, a annoncé lundi le ministre canadien des Affaires étrangères. Ce groupe créé par le Canada dans la foulée du drame réunit également le Royaume-Uni, l'Ukraine, la Suède et l'Afghanistan. Ces pays se sont déjà parlé à deux reprises par téléphone, notamment pour réfléchir à d'éventuelles compensations financières depuis l'accident mercredi d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui a fait 176 morts, dont 57 Canadiens. Les forces armées iraniennes ont reconnu avoir abattu l'avion par erreur. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 55 minutes. Nous sommes le 14 janvier 2020.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.